Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons la série « Le message de la croix ». Le titre de ce matin sera « Le triomphe de la résurrection ». Christ est ressuscité. Et dans certaines églises, tout le monde dit « Oui, il est ressuscité. Amen. » L'Évangile a traversé la terre avec ce cri de victoire. Le message de la croix est en même temps un message de résurrection. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 22, et le chapitre 2, verset 32. C'est en cela que réside le secret de son invincibilité. Un retour au ciel sans résurrection corporelle, cela aurait été une chose concevable en soi. Même retourner vers la gloire du Père comme esprit, car ça aurait été, s'il était retourné sans être mort à la croix, il serait resté comme autrefois, un esprit, comme le Dieu le Père, Yahvé l'Éternel. Et Christ serait quand même resté le vivant pour l'éternité. C'est comme esprit, sans avoir un corps humain, qu'il existait bel et bien avant l'incarnation. Mais, croyez-moi, il n'en était pas moins la source et le prince de toute vie sacrée. Actes, chapitre 3, verset 15, et Saint Jean, chapitre 1, verset 4. Mais la résurrection corporelle du Seigneur, elle fut bien plus qu'un prolongement de son existence au-delà de la mort. Elle était la condition préalable au complet achèvement de la rédemption, car elle seule était la pleine manifestation de la victoire du Rédempteur sur la mort. En retournant aux cieux sans résurrection corporelle, Christ aurait été triomphé, il aurait tout de même, évidemment, il aurait tout de même triomphé de la mort moralement et spirituellement. Mais évidemment que cela aurait été une victoire, on peut dire, à deux tiers. Ça n'aurait pas été une victoire, on peut dire, au complet du triomphe. Donc, des trois parties de sa personnalité humaine, deux seulement, esprit et âme, auraient été englobés dans cette victoire. Or, pour que son triomphe, et notez le psaume 16, verset 10, pour que son triomphe soit pleinement mis en évidence d'une manière royale, il devait inclure la victoire sur la mort physique. Mais il y a même beaucoup plus que cela. Sans une résurrection corporelle, le Christ n'aurait pas du tout été manifesté comme vainqueur de la mort. Or, la mort, en effet, n'est pas l'extinction de l'être ou la cessation de l'existence, mais bien plutôt la dissolution de la personnalité humaine, l'écartèlement, on peut dire l'arrachement des liens de tous ces liens qui nous unissent à l'esprit, âme et le corps. Le triomphe sur la mort doit donc s'exprimer par une restauration de cette unité, par le rétablissement des liens organiques de l'esprit, de l'âme et du corps. Cela implique donc, pour le corps, la réunion avec l'âme et l'esprit. Ça a l'air compliqué, mais je suis sûr que tout un chacun peut le comprendre. On pourrait répéter cette partie. Or, pour que le triomphe de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur soit pleinement mis en évidence d'une manière royale, il devait inclure la victoire sur la mort physique. Car sans une résurrection corporelle, le Christ n'aurait pas du tout été manifesté comme vainqueur de la mort. Or, la mort n'est pas l'extinction de l'être ou la cessation de l'existence, mais bien plutôt, c'était et c'est la dissolution de la personnalité humaine. C'est l'écartèlement, c'est l'arrachement des liens qui nous unissent à notre esprit, à notre âme et à notre corps. Donc, le triomphe sur la mort doit s'exprimer par une restauration de toute cette unité et par le rétablissement des liens organiques de l'esprit, de l'âme et du corps. Cela implique donc pour le corps la réunion avec l'âme et l'esprit. Il n'y a donc aucun vrai triomphe de la vie. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 54 à 57. Oui, il n'y a aucun vrai triomphe de la vie sans aucun fruit évident de la victoire et sans la résurrection corporelle. Elle seule, cette victoire corporelle, pouvait montrer que la mort était vraiment vaincue, devenue vainqueur. Même si nous n'avions pas eu dans les évangiles le témoignage du tombeau vide, nous n'aurions pu aboutir qu'à cette seule conclusion. La résurrection était également nécessaire comme la source de raffermissement de la foi des croyants. Souvenez-vous, la foi nous vient de la prédication. Romains chapitre 10, versets 14 à 17. Et cette prédication repose sur la foi de la première période. L'individu croit maintenant à travers le témoignage de tous ceux qui ont cru même bien avant lui, et leur foi est totalement impensable en dehors de celle de la première génération. Éphésiens 2, verset 20. Or, c'est précisément cette foi-là qui avait faibli après la mort du Christ sur la croix. Saint Luc 24, versets 21 et 22, et Saint Marc, chapitre 16, verset 14. C'est la résurrection corporelle du Seigneur et ses apparitions postérieures, comme étant le ressuscité, et l'a noté Saint Jean, chapitre 20, verset 8 jusqu'au verset 20, et encore, premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. qui lui permet donc ainsi une nouvelle éclosion. Donc, chers amis, sans la résurrection corporelle, aucun homme raisonnable aurait pu croire facilement, même, je crois, même pas difficilement, aucun homme qui, justement, comme aujourd'hui, tout le monde raisonne à l'extrême, aurait pu croire au crucifié, aurait pu croire à sa fin, qui aurait été en contradiction avec ses propres prophéties concernant sa résurrection et son triomphe. Et là, notons Saint Matthieu, chapitre 16, verset 21, chapitre 17, verset 23, chapitre 20, verset 19, et encore Saint Jean, chapitre 2, verset 19. La résurrection du Seigneur est donc le sceau, c'est carrément comme étant le sceau du Père, de Yahvé l'Éternel, du Dieu de l'univers, sur la personne et sur l'œuvre du Fils, de son Fils bien-aimé. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32. Sa résurrection démontre donc pleinement qu'il est vraiment le prophète et le Fils bien-aimé de Dieu le Père. Romains, chapitre 1, verset 4. Et elle scelle, c'est comme si on allait sceller tout cela d'une façon irréfutable. Romains, chapitre 2, verset 1, nous voyons le témoignage des prophètes. Et là, on peut ajouter le psaume, chapitre 16, verset 10, et Ésaïe, chapitre 53, verset 10, et nous comprendrons, rappelez-vous, toute l'histoire du signe qui a été donné à Jonas, Saint Matthieu, chapitre 12, verset 39 et 40. Le témoignage de Jésus lui-même, selon Saint Matthieu 16, verset 21, et Saint Jean, chapitre 2, verset 19 à 22, et en plus, nous avons le témoignage de tous ses apôtres, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 15. Nous avons l'authenticité de sa qualité de fils de Dieu, dans Romains, chapitre 1, verset 4, et dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 33. Nous avons ensuite sa royauté, Actes 13, verset 34. Ensuite, nous avons son entière autorité comme étant le juge universel. Acte 17, verset 31. Donc, la résurrection de Jésus-Christ garantit en outre, elle garantit notre propre résurrection, alléluia, et notre gloire à venir. Pour ceux qui ont accepté la main tendue de Jésus-Christ pour accepter son salut gratuitement, pour être sauvés. Donc, tout cela, la résurrection de notre Sauveur et Seigneur, sa résurrection, elle est pour nous une garantie. Une garantie pour notre propre résurrection et pour notre gloire qui est à venir. Pour les uns, bientôt, pour les autres, un peu plus tard. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. C'est donc la raison pour laquelle cet événement est le mieux attesté de tous dans toute l'histoire du salut. Du reste, même les critiques de la Sainte Bible, les plus radicaux, et il y en a, reconnaissent l'authenticité de la première épître aux Corinthiens. Or, c'est dans ce document incontesté que l'apôtre Paul fait appel à des centaines de témoins encore en vie 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6. Il fait cela pour établir devant ses lecteurs, dont plusieurs lui étaient totalement opposés. Donc, disposer et comment à une critique acerbe, il a pu leur donner 4 preuves essentielles. Voyons cela ensemble un peu de plus près. Premièrement, l'expérience. Les Corinthiens avaient eux-mêmes été sauvés par la proclamation d'un Christ corporellement ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2. Deuxièmement, les Saintes Écritures. Oui, c'est selon les Saintes Écritures que le Christ non seulement est mort, mais encore, il est ressuscité. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. Troisièmement, nous avons les témoins. Et il y en avait. Plus de 500 hommes l'ont vu personnellement après sa résurrection. Et cela dans les circonstances les plus diverses. 1 Corinthiens 15, verset 5, noté jusqu'au verset 12. Et quatrièmement, la nécessité de l'événement dans l'histoire du salut, si Christ, chers amis, n'est pas ressuscité, alors notre prédication, elle est totalement vaine, et notre foi aussi est vaine. Alors ceux qui sont morts en Christ sont perdus, et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, versets 13 à 19, comme une dame dans un tea room me disait, nous sommes exactement comme le rat. Et vous l'avez dit un jour, et j'ai compris que c'est bien ça. Quand le rat est mort, c'est fini. Et pour nous, c'est la même chose. Quand j'ai voulu lui expliquer que c'est pas du tout la même chose, elle a fait opposition de tout son savoir, on peut dire universitaire, de son savoir sur l'origine de la Terre, des roches qui ont été analysées et des sources de vie qui ont pu éclore il y a plus de 25 millions d'années. Oh là là, pour finir, j'ai payé mon café puis je suis parti. La croix et la résurrection vont, écoutez bien, de pair. N'oublions jamais que la croix et la résurrection vont ensemble. Le crucifié Jésus-Christ, il est mort. Il est mort pas comme le rat. Il est mort pour ressusciter en nouveauté de vie. Saint Jean chapitre 10, verset 17. Le ressuscité vit pour l'éternité en tant que crucifié. Et c'est en relation avec ces deux faits à la fois, la croix et la résurrection, que ont été toujours obtenus les effets salvateurs, les effets du salut, de la rédemption, la réconciliation de tous ceux dont la foi repose en Christ, comme la vôtre et comme la mienne. Romains 5, verset 10. Ainsi en est-il du détrônement du péché dans le croyant. Romains 6, verset 10 et 11. Ainsi en est-il de la communion vivante avec le Rédempteur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 10. Ainsi en est-il de la seigneurie de Christ. Romains 14, verset 9. Ainsi en est-il de sa prêtrise céleste. Romains 8, verset 34. Et ainsi en est-il de son union vivante avec l'Église glorifiée. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Tout ceci nous montre que la résurrection en relation avec la croix est le fondement de la vie nouvelle de tous les croyants. Donc tout pécheur est au bénéfice de l'offrande du Christ pour le péché dans la seule mesure où il croit simplement en lui, en Jésus-Christ, comme étant l'antitype du serpent élevé. Saint Jean chapitre 3 verset 14. Et l'agneau, c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde. Saint Jean chapitre 1 verset 29. Or cette foi-là, la foi, n'est possible que par la résurrection qui manifeste la complète victoire de Golgotha. Saint Jean chapitre 19 verset 30. Pour que le salut qui est acquis pour nous, pour vous, sur la croix, pour que ce salut devienne valable, disponible, il fallait bien entendu un médiateur ressuscité et exalté. La grâce, elle est donc offerte à tous et à tous que par l'agneau qui a été élevé en gloire. C'est donc par l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons une grâce qui nous est offerte à tout un chacun. Ainsi, quiconque accepte pour lui-même, pour elle-même, quiconque accepte la mort sacrificielle du Fils de Dieu entre ainsi en union organique avec le Christ. Et là, on peut ajouter Romains chapitre 6, verset 5 et Galates chapitre 2, verset 19 et 20. Et ainsi, nous entrons en communion avec la mort et avec la vie du Rédempteur, lui, notre Sauveur et Seigneur. Et c'est pour ainsi dire comme si on allait manger sa chair et boire son sang. Notez Saint Jean, chapitre 6, verset 53, et le verset 32, le verset 35, le verset 48 et encore le verset 58 de Saint Jean chapitre 6. Tout cela correspond au type de l'Ancien Testament, manger du sacrifice. C'est dans Lévitique chapitre 7 verset 32 et 34 et dans Exode chapitre 12 verset 3. Et on peut ajouter 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Ainsi, chers amis, Christ pour nous devient ainsi le Christ qui va demeurer par l'Esprit Saint en nous. Il est l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. Ce don du Christ pour nous, qui a été offert pour nous à la croix, est dans l'Écriture sainte bien autre chose qu'un simple processus intellectuel. Oui, c'est pas seulement intellectuel, de certaines soustractions ou d'additions. C'est bien autre chose qu'un compte mécanique des culpabilités ou encore des mérites. Et la liste des crédits et des débits qu'on pourrait ajouter à tout cela. Non, non, non. La doctrine de l'Écriture sainte expose un principe de vie complètement nouveau. Il est divin, il est personnel et qui pénètre absolument tout. Christ est donc non seulement le donateur, mais encore il est pour nous un don. C'est un don qui a été offert de sa personne à tout un chacun d'entre nous. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 15. Il prépare et il montre ainsi le chemin, mais il est lui-même. Oh, et combien il est lui-même le chemin. Gloire à Dieu. Notez Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Il est le propitiateur, mais encore en plus, il est la propitiation. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 2. Jésus-Christ est le rédempteur. Saint Jean 4, verset 10. Mais il est aussi, s'il est le rédempteur, il est aussi la rédemption. 1 Corinthiens 1, verset 30. Donc, la foi que nous avons accepté d'avoir clairement et d'une façon convaincue, cette foi en Jésus-Christ, n'est pas seulement un assentiment extérieur ou très vague, mais elle est une union personnelle avec lui. L'apôtre Paul emploie environ 164 fois l'expression « en Christ ». Par exemple, la justification en Christ. Galates chapitre 2, verset 17. Justice de Dieu en lui et par lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Chacune de ces lettres, elle nous parle de ce secret béni et chacune sous son aspect particulier. Par exemple, aux Romains. Le livre des Romains. Nous voyons la justification en Christ. Aux Corinthiens, nous voyons la sanctification en Christ. Aux Galates, nous avons la liberté en Christ. Et puis, en plus, j'ai dit la liberté en Christ et l'unité, l'unité en Christ. Nous sommes unis en Christ. Et ça, par le livre aux Éphésiens. Aux Philippiens, nous avons la joie en Christ. Aux Colossiens, nous avons la plénitude en Christ. Aux Thessaloniciens, nous avons la glorification en Christ. Reprenons cela d'une façon un peu plus simple. Aux Romains, la justification en Christ. Aux Corinthiens, la sanctification en Christ. Aux Galates, la liberté en Christ. Aux Éphésiens, l'unité en Christ. Aux Philippiens, la joie en Christ. Aux Colossiens, la plénitude en Christ. Aux Thessaloniciens, la glorification en Christ. Le sacrifice propitiatoire du Christ ne peut donc être au bénéfice du pécheur avec justice que que si celui-ci est uni. Uni. Que si je suis ou que tu es, mon frère et sœur, uni au Saint Rédempteur par la nouvelle naissance. Eh oui. L'organique ne peut exister que par l'union d'une tête et des membres de même nature. Hébreux, chapitre 2, verset 14 à 17. C'est pourquoi Christ doit rester homme pour toujours. Et comme tel, il peut être la tête d'un organisme humain, il peut être le corps. Mais le corps n'est pas simplement comme le pense, ou surtout que pensait, puisqu'ils ne sont plus, comme le pensait Platon, Aristote et Origène. Le corps n'est donc pas seulement une prison de l'âme, mais il fait partie de l'essence même de l'homme. Sans le corps, l'homme est nu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 3. Comme Christ doit demeurer homme, cela implique qu'il garde éternellement un corps d'homme. Sans une résurrection corporelle, Christ serait sorti du rang humain et du même coup, il n'aurait plus été en mesure de compléter l'œuvre de la rédemption qu'il a fondée sur son incarnation. La résurrection corporelle du Christ indique donc l'immortalisation de son humanité sous une forme transfigurée et glorifiée. Je répète cette phrase pour qu'elle soit bien comprise. La résurrection corporelle du Christ indique l'immortalisation de son humanité et cela sous une forme transfigurée et glorifiée. Elle démontre que Christ est le dernier Adam. Romains 5, verset 12 jusqu'au verset 21. C'est lui le second homme céleste. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45 à 47. Et que dans les cieux, à la droite de Dieu, notez Actes 1, chapitre 1, verset 11, et sans oublier Daniel, oh oui, Daniel, chapitre 7, verset 13, et die Offenbarung, donc Apocalypse, chapitre 1, verset 13. Il est le commencement, il est le créateur, et il est la tête organique. Éphésiens 1, verset 22, tout cela d'une humanité spirituelle qui a été entièrement racheté par son sacrifice. Mais tout ceci dépasse infiniment notre pouvoir de penser. Comment, après son élévation dans la gloire, le Rédempteur, comment peut-il encore être homme, et ce, dans un corps transfiguré ? N'a-t-il pas dit de lui-même « Voici, je suis avec vous tous les jours » N'est-il pas cependant, par-dessus tout, la seconde personne de la Trinité ? Ah ben oui, ce qui dépasse, bien sûr, le spatial et le temporel. Et pour nous, pleinement, tout cela, pour nous, ça peut paraître un peu inexplicable. Car quand nous parlons ici avec la Sainte Bible du matériel et du corporel, cela a toujours pour nous un sens incompréhensible, car l'éternel, c'est la véritable sphère dans laquelle Christ est entré. Néanmoins, les Saintes Écritures enseignent cette humanité du Rédempteur. C'est elle qui garantit l'opération et la permanence de son œuvre. La victoire sur la mort inclut la continuation sans fin de son humanité. Il ne peut être la source d'un salut éternel si ce n'est comme premier-né d'entre plusieurs frères. Et là, notez Romains chapitre 8, verset 29, Colossiens chapitre 1, verset 18, Hébreux chapitre 2, verset 11, chapitre 5, verset 9. Ainsi seulement, les rachetés sont en Christ, sont régénérés pour une espérance vivante. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. On est donc unis à l'Église en tant que ses membres. Éphésiens 4, verset 16. Et nous sommes capables d'expérimenter la puissance de sa résurrection. Philippiens 3, verset 10. Tout cela pour marcher devant lui en nouveauté de vie, comme étant ressuscité avec lui. Romains 6, verset 5 à 11. Éphésiens 2, verset 6. Et pour le servir d'une manière vivante, pas seulement, comment est-ce qu'il faut dire, éphémère, virtuelle, non, d'une manière réaliste. Servir notre Sauveur et Seigneur, c'est la plus merveilleuse chose que nous pouvons faire. Recevoir une telle chose dans notre cœur comme zèle et comme, comment faut-il dire, comme motivation, croyez-moi, c'est une grâce de Dieu. Hébreux 9, verset 14, Romains 7, verset 4 à 6. Tout ceci, chers amis, nous montre que l'événement de Pâques a deux aspects. D'une part, nous avons l'action du Père qui, en rendant son Fils à la vie, met un sceau sur sa personne et sur son œuvre accomplie. D'autre part, le plus glorieux miracle de toute l'œuvre du Fils, c'est une résurrection qui est accomplie par l'exercice volontaire de la puissance de sa propre vie. Saint Jean chapitre 2, verset 19. Le Père, il m'aime, a-t-il dit. Oui, le Père, il m'aime, il a de l'amour pour moi, parce que je donne ma vie librement, afin de bientôt la reprendre. J'ai donc le pouvoir, premièrement, de la donner pour sauver tous ceux qui sont perdus, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Saint Jean chapitre 10, versets 17 et 18. Enfin, la résurrection est incroyable, mais c'est une réalité. C'est la base de la transformation du monde tout entier. Comme telle, elle se déploie en trois cercles de plus en plus larges. Elle nous garantit, notez, elle nous garantit dans la vie de l'individu, quoi ? Qu'est-ce qu'elle nous garantit ? Eh bien, premièrement, elle nous garantit la résurrection du corps. Alléluia ! Dans la vie de la terre, elle nous garantit l'apparition du royaume de gloire. Dans la vie de tout l'univers, elle nous garantit la transfiguration finale de toute la création. Oui, Reprenons cela en détail. Elle garantit premièrement la résurrection du corps, de notre corps. Et cela devient possible uniquement sur la base de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En lui, comme prémisse, 1 Corinthiens 15, verset 23 et Colossiens 1, verset 18, la résurrection est la transfiguration de l'humanité. En lui, comme prémisse, la résurrection est la transfiguration de l'humanité. Le retour à la vie de plusieurs saints de l'ancienne alliance, tout d'abord, et cela lors de la résurrection du Christ. Elle nous montre que la voie est maintenant ouverte pour la résurrection des rachetés que nous sommes. Saint Matthieu 27, versets 52 et 53. C'est son triomphe sur la mort qui garantit notre propre résurrection. Romains 8, verset 11 et 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Son corps de gloire est le modèle et le type de nos propres corps futurs. Philippiens 3, verset 20 et 21 et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. La résurrection des prémices, c'est la base de toute résurrection. Jean, chapitre 5, verset 26 à 29. Même la résurrection pour le jugement, il est confié au Fils Jésus-Christ, pour la bonne raison qu'il est un Fils de l'homme. Jean, chapitre 5, verset 27 à 29. Ainsi, toute résurrection des croyants ou des incroyants est donc garantie par la résurrection du dernier Adam, ainsi comme par un seul homme et la mort par un homme aussi sera donc la résurrection des morts, car comme dans l'Adam, tous meurent. De même aussi dans le Christ, tous seront rendus vivants un jour ou l'autre, pour certains bientôt. 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22. De plus, deuxièmement, le royaume millénial est entièrement basé sur la résurrection du Seigneur Jésus. Le royaume promis à David, ça, c'est un royaume humain, bien que glorieux et éternel, tout autre chose qu'aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il requiert un roi à la fois éternel et humain, le Fils de l'homme qui reviendra, alléluia, qui reviendra sur les nuées des cieux. Notez Daniel, chapitre 7, verset 13, Saint Matthieu, chapitre 26, verset 64, et Apocalypse, chapitre 1, verset 13. L'humanité du Christ se continue par la résurrection, et ainsi nous avons l'accomplissement des prophéties du royaume telles qu'elles furent données à David. La résurrection du roi, c'est le fondement posé en vue de la nouvelle naissance. Saint Matthieu, chapitre 19, verset 28. Oui, c'est la, on peut dire, c'est la résurrection du monde messianique, en sorte que ce qui se passera au retour du Christ ne sera que la pleine manifestation d'un accomplissement déjà donné lors de sa première venue. que Dieu l'a ressuscité, notre Sauveur et Seigneur, que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes qui ont été promises à David ». Et ces grâces qui sont vraiment assurées. Notez Actes 13, verset 34 et Ésaïe 55, verset 3. Et ajoutez Actes chapitre 2, verset 30 et 31. La renaissance spirituelle d'Israël, Ézéchiel 37, verset 1 jusqu'au verset 14. Ensuite, nous avons la régénération spirituelle de toutes les nations. Psaume 87, verset 4 à 6. Et ajoutez Ésaïe 25, verset 6 à 8. Et toujours Ésaïe, chapitre 19, verset 21 à 25. Le renouvellement de la nature aura également lieu. Croyez-moi, il n'y aura plus cette pollution épouvantable et tous les enfants n'attraperont plus de l'asthme. Exode 41, verset 18 et chapitre 55 de Exode, j'ai dit 55, verset 12 et 13. Nous aurons aussi la suppression du pouvoir de destruction des bêtes sauvages. Ils ne vont plus se tuer les uns les autres. Ésaïe 11, versets 6 et 7. Nous aurons l'accomplissement et l'accroissement de toute l'énergie vitale et de la durée de vie de l'humanité. Exode chapitre 65, versets 20 à 22. Et c'est ainsi que, en son temps, l'énergie vitale du ressuscité remplira le monde entier et que le règne visible du Messie sera la renaissance, la vie nouvelle pour toute la création terrestre, toute entière. Saint Matthieu 19, verset 28. Mais le royaume millénial lui-même n'est que l'introduction et le prélude à une création nouvelle, parfaite, absolue, sans un atome de péché ou de pollution. Troisièmement, pour terminer notre étude d'aujourd'hui, nous avons les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui a été promise après le grand trône blanc. Apocalypse 21, verset 1 jusqu'au verset 20 et le chapitre 20, verset 11 à 15. Alors non seulement l'âme et l'esprit seront complètement transfigurés, mais encore la matière et la nature sera complètement transfigurée. Dans la Jérusalem céleste, il y aura de l'or transparent comme du cristal. Incroyable, mais vrai. Apocalypse 21, versets 18 à 21. Et ici encore, l'événement de Pâques est la base créatrice. C'est la résurrection de l'héritier de toutes choses qui est la garantie des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Dans son corps ressuscité, la nature a été transformée pour la première fois. Saint Jean chapitre 20, verset 26 et Saint Luc chapitre 24, verset 39 à 43. Ainsi était révélé dans l'histoire du salut la possibilité d'une transformation de la matière. À ce point de vue également, Christ, il est lui, les prémices en tout. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Depuis lors, toute transformation des cieux et de la terre repose sur la résurrection du corps du Rédempteur. Après le grand trône blanc, l'activité vivante du ressuscité sera manifestée de la manière la plus universelle, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et j'ai dit, il n'y aura pas un atome de péché et de pollution. Ésaïe 65, verset 17, et 2 Pierre, 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 13. Chers amis, nous allons terminer notre étude aujourd'hui. La prochaine, qui sera le numéro 5, nous aurons l'ascension du vainqueur. Et nous comprendrons tous beaucoup mieux encore certaines choses qui peuvent nous paraître un peu voilées. Mais tout va prendre forme et se révéler à vous entièrement. Nous allons donc arrêter notre étude par quelque chose que je voudrais vous transmettre qui peut également vous donner beaucoup pour votre vie de tous les jours. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur me donne par son Esprit Saint de vous les transmettre parfois, pas toujours, parce que c'est lui qui commande, c'est lui le donateur. Et après, s'il reste encore une petite place, nous allons prier. Écoutez bien, gardez-vous du désir curieux et inutile de sonder certains mystères, surtout si vous ne voulez pas vous plonger dans un abîme de doute. Celui qui scrute la majesté sera accablé par la gloire. Proverbe 25, verset 27. Dieu peut faire beaucoup plus que l'homme ne peut comprendre. On ne défend pas une humble et pieuse recherche de la vérité, oh non, pourvu qu'on soit toujours prêt à se laisser instruire et qu'on s'attache fidèlement à la sainte doctrine des pères. Heureuse, la simplicité qui laisse le chantier des questions difficiles pour marcher dans la voie droite et sûre des commandements de Dieu. Plusieurs ont perdu la piété en voulant approfondir trop ce qui est impénétrable. Ce qu'on demande de vous, c'est la foi et une vie pure, et non seulement une intelligence qui pénètre la profondeur des mystères de Dieu. Si vous ne comprenez pas ce qui est au-dessous de vous, comment comprendrez-vous ce qui est au-dessus? Soumettez-vous humblement à Dieu. Captivez votre raison sous le joug de la foi et vous recevrez la lumière de la science selon qu'il vous sera utile ou nécessaire. Ne vous troublez point, ne disputez point avec vos pensées, ne répondez point aux doutes que le démon peut vous suggérer, mais croyez à la sainte parole de Dieu et l'esprit de malice s'enfuira loin de vous. Il est souvent très utile à un serviteur de Dieu, femme ou homme, d'être éprouvé, car le démon, écoutez bien ce qu'il nous est dit, car le démon ne tente point les infidèles et les pécheurs, parce qu'ils sont déjà à lui, ils lui appartiennent déjà. Mais il s'attaque et il tourmente de diverses manières les âmes qui sont pieuses, qui sont fidèles. Allez donc avec une foi simple et inébranlable et recevez le sacrement avec un humble respect. Vous reposons sur la toute-puissance de Dieu, votre Père, de ce que vous ne pourrez comprendre pour l'instant. Dieu ne trompe point, mais celui qui se croit lui-même est trop souvent trompé. Dieu s'approche des simples, il se révèle aux humbles, il donne intelligence aux petits et il cache sa grâce aux curieux et aux superbes. La raison de l'homme est faible et se trompe aisément, mais la véritable foi ne peut être trompée. La raison et toutes les recherches naturelles doivent suivre la foi et non pas seulement la précéder ni la combattre, car la foi et l'amour s'élèvent par-dessus tout et opèrent d'une manière inconnue dans les cœurs 100% sincères. Dieu éternel immense, infiniment puissant, fait dans le ciel et sur la terre des choses grandes, incompréhensibles, et nul ne saurait pénétrer toutes ces merveilles. Si les œuvres de Dieu étaient telles que la raison de l'homme pourrait aisément les comprendre, elles cesseraient d'être merveilleuses et ne pourraient être appelées ineffables. Chers amis, nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien, et restons donc simplement dans la méditation, dans, j'aimerais dire, dans le calme et dans l'écoute. Ô notre Père Céleste, Yahvé l'Éternel, tu es le Seigneur, tu es notre Dieu unique, incomparable et tout-puissant. C'est en toi qu'est déposé et d'où rayonne toute la vérité. Mon cœur est prêt, ô Père, mon cœur est prêt à clamer sa reconnaissance et à chanter ta gloire chaque jour. Tu es Seigneur, tu es le roi de ma vie et de toute vie. Que ton saint nom soit béni dans les siècles des siècles. Jusqu'à ma mort, ô mon Dieu, ma confiance sera placée en toi. Mon salut et mon but, c'est toi, mon Seigneur. Père, j'aime la beauté de tes parvis, où réside ta divine gloire, les chemins qui y aboutissent et ceux qui en partent sont les voies de la vérité et de la justice. Je t'y ai rencontré, Dieu de toutes les piétés, toi qui es la source des magnificences spirituelles, tu as penché vers moi le réconfort de ta souveraine indulgence, et tu m'as consolé de toutes mes peines, tu m'as retiré de l'abîme, oh oui, tu m'as arraché de l'iniquité, tout ce qui peuple l'espace, la terre et le ciel. Bénissez donc Yahvé, le Dieu Tout-Puissant, qui est notre Père Céleste, humanité qui peuplait la terre. Réjouissez-vous en lui, servez-le dans l'allégresse et que votre ferveur ne connaisse plus de bornes lorsque vous l'aurez rencontré, car sa présence réchauffe les cœurs glacés comme fait le soleil quand il monte à l'Orient. Ta main divine, elle est mon soutien, oui Seigneur, car c'est elle qui m'a relevé, qui a ranimé mon courage et qui m'a communiqué sa force. Tu ne crains pas, ô Père, de nous associer à ton œuvre et nous en éprouvons une reconnaissance et une joie profonde. Dieu juste, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Ton nom est saint et adorable. Pour les moins avancés d'entre nous, c'est la crainte de ta justice. Pour les plus évolués, c'est l'amour de ton saint nom et le respect de ta loi qui est le commencement de la sagesse. Mon âme, elle magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu qui, lui, est mon sauveur. À lui et à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, à vous, dans tous les siècles des siècles, recevez la bénédiction, recevez l'honneur et recevez la puissance. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Je ne mérite pas toute ton aide, mais tu es infiniment bon. Tu es vraiment amour. Merci et bénis tous ceux qui t'appartiennent. Bénis Diva de Vera et tous ceux qui sont autour d'elle. Bénis tous ceux qui t'aiment profondément, sincèrement. Oh oui, ô Seigneur, bénis-les. Merci. 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 Amen.